Mardi prochain, nous allons commencer ensemble la grande neuvaine de l'unité. Il me semble que c'est bon dès ce soir, on peut nous y préparer. Mais ce soir, ce que je voudrais tâcher avec vous de méditer, c'est sur, je dirais, parce que là, quand nous parlons de la prière sacerdotale de Jésus, qu'il soit un comme moi et vous, mon Père, nous sommes un, cette prière sacerdotale, pour la prendre dans deux significations différentes. Pour la prendre comme une prière que nous avons chacun de nous à faire au plus intime de notre cœur. Et je pense que chaque année, avec la semaine de l'unité, il est très bon de demander très fort à notre Seigneur que notre vie soit encore plus unifiée. Vous voyez, je pense que si nous voulons répondre au désir de Jésus, étant donné que nous sommes dans une religion d'amour, c'est d'abord nous-mêmes, en unifiant extrêmement notre vie, en tâchant de vivre très très profondément au fond de notre cœur et dans toute notre vie, la prière sacerdotale de Jésus, que nous attirons sur l'ensemble du monde l'unité. Vous savez que quand Paul VI, qui n'était pas encore pape à ce moment-là, avant que le concile Vatican commence, qu'il a été trouvé Padre Pio, et qu'il lui a dit, vous-même, pour l'unité, dans votre vie de prière et de sacrifice, que nous le ferons, nous, dans nos assemblées, dans nos réunions, ensemble. Paul VI avait très très fort le sens que dans la religion de Jésus, au fond, ce sont ceux qui sont les plus unis à Jésus qui attirent les grâces d'unité. D'où, vous voyez, je pense que nous pouvons prendre la semaine de l'unité et nous avons à la prendre sous deux aspects. Pendant la semaine de l'unité, la première conférence mardi prochain, la veillée qu'il y aura, je crois qu'il est animé par Jean, je pense que ce sera surtout pour prendre ensemble de voir comment travailler pour que l'unité se réalise davantage au plan religieux dans toute l'Église. Que tous ceux qui croient en Dieu s'efforcent d'être plus un. Mais aujourd'hui, je voudrais le faire d'une façon beaucoup plus intime avec vous. Que nous demandions, mon Dieu, la grâce ensemble, que chacun de nous, dans notre vie personnelle, nous réalisions davantage la prière de Jésus. Que notre vie, au fond, que nous répondions plus à cet appel. Père, qu'il soit un, comme vous et moi, nous sommes un. Il voudrait d'abord que nous lisions ensemble cette prière de Jésus. Parce que c'est la dernière prière de notre Seigneur, c'est vraiment une prière, dans ses entretiens avec ses apôtres, après l'institution de l'Eucharistie, avant que commence l'agonie et puis la passion. Dans l'évangile de Saint Jean, qu'est-ce qui est caractéristique de cet évangile de Saint Jean? C'est qu'il contient des discours de Jésus aux apôtres, des conversations tout intimes de Jésus avec la Samaritaine, par exemple, avec Nicodème, des entretiens de personne à personne. Et puis il contient aussi, et surtout dans cette grande prière sacerdotale, une prière même de notre Seigneur. Et c'est au fond ce qui nous est le plus précieux. De tâcher de découvrir la prière de Jésus, d'entrer dans cette prière intime de Jésus. Vous voyez, donc, je voudrais que cette préparation à l'unité que nous fassons ensemble aujourd'hui soit comme une préparation toute intime, toute intérieure. Et je voudrais lire tout d'abord avec vous cette prière de Jésus. Ainsi parla Jésus, puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Puisque tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour moi, je t'ai glorifié sur la terre, ayant achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » On voit bien comment Saint Jean, dans cette prière de notre Seigneur, nous retrouvons tout ce qui est tout à fait au début de son évangile. Et rappelez-vous le prologue de son évangile que l'Église nous a fait lire à la messe du jour, le jour de Noël, pour que nous comprenions bien cet avènement de Dieu dans ce monde, Dieu qui envoie son Fils. C'est la continuation, c'est comme l'accomplissement. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils savent à présent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Et ils les ont reçus. Ils ont compris vraiment que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. J'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, tandis que je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais en ton nom, que tu m'as donné, et je les ai conservés, et nul d'entre eux n'a péri que le Fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Mais à présent, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes la plénitude de ma joie. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. C'est ta parole qui est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Or, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi-même, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, de façon que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité, de façon que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que où je suis, cela aussi soit avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, si le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Donc, tâchez ensemble, très très simplement, de méditer un peu sur cette prière sacerdotale de Jésus, comme je vous disais, pour que pendant ces jours, nous efforcions tout simplement, humblement, chacun de nous, de répondre un peu plus à l'appel de Jésus. Je pense que ceux qui ont la grâce d'avoir été baptisés dans l'Église catholique, ceux qui ont comme le plus moyen de réaliser pleinement cette prière sacerdotale de Jésus, sont ceux qui ont les plus d'exigences. Et c'est pour ça que notre premier devoir, c'est nous efforcer. Il y a une prière tout intime, certes qui n'est pas du tout fermée sur nous-mêmes, mais une prière tout intime, vous voyez, où nous cherchons tout simplement à ce que la gloire du Père se réalise en nous comme en Jésus. Autrement dit, où nous nous efforcions tout simplement que cette religion que notre Seigneur est venu nous apporter, qui est essentiellement une religion personnelle, ce n'est pas d'abord dans une communauté que nous avons à nous sanctifier, mais chez chacun de nous, au plus intime de notre cœur, que nous avons à réaliser, mais de façon très consciente, de très libre, à chaque moment, ce que Jésus nous appelle. Eh bien, pendant cette semaine, que nous efforcions de le réaliser encore beaucoup plus. Et c'est de cette manière que nous travaillerons le plus pour l'unité. Parce que c'est par là que nous attirerons le plus ces grâces d'unité sur le monde. Vous voyez, ce n'est pas du tout de l'égoïsme, cela. Mais c'est au fond, je dirais, cette humilité, cette magnanimité de l'amour. Au fond, tâchez que notre personne elle-même, elle se réalise tout simplement davantage par l'union même avec les personnes divines. Vous voyez, cette prière sacerdotale de Jésus, Père, qu'il soit un comme vous et moi, nous sommes un, on peut dire que c'est la prière suprême. Au fond, Jésus, à ce moment-ci, à la fin de sa vie, juste avant la croix, révèle à ses apôtres le but pour lequel il est venu. Vous voyez, ce qu'il a révélé à Marie, dans le silence, que c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé à Marie en lui donnant Jésus. Mais dès que Marie, Jésus a été conçu dans le sein de la Sainte Vierge, les apôtres, maintenant, ils peuvent un peu mieux le comprendre. Et Jésus veut que au moins ceux d'entre eux qui vivront mieux, pour qu'ils vivent mieux la passion de notre Seigneur. Hein, il tâche de les faire entrer dans ce secret de son cœur. C'est le secret intime du cœur de Jésus. Jésus est venu sur la terre avant tout pour nous révéler le mystère d'amour de Dieu. C'est-à-dire pour nous révéler son Père et l'Esprit Saint. Il est venu nous révéler que chacun de nous, il faut que de plus en plus dans notre vie, ce soit le Père, qu'il soit pour nous le Père qui nous engendre, le Père le plus intime, le Père même de Jésus. Au fond, déjà Tertullien, quand il avait été converti, disait « Dieu est comme une mère ». Mais pendant cette semaine de l'unité, vous voyez, il faut que nous demandions très fort, que nous devenions davantage encore pendant cette semaine. Vous voyez, c'est tout petit qui prennent conscience que par la grâce sanctifiante que Jésus leur apporte, ils peuvent dès maintenant commencer la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vivre cette vie éternelle? Ça veut dire vivre dans le sein du Père. Demeurer intimement dans ce sein du Père. Au fond, que dans les moments, quand Jésus nous donne ce repos de la prière, là, nous laissions tout simplement. Au fond, le Saint-Esprit nous ramène au Père. Et puis que dans les moments difficiles, nous recourions tout de suite. Nous sachions que, au fond, depuis que notre Seigneur est venu, depuis que nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint, notre Père, c'est le Père de plus en plus. Et tous les autres paternités de la terre, nos pères ou mères que nous avons eus, tous les pères, les maîtres que nous avons pu connaître, tous les pères, c'est uniquement pour nous faire connaître le Père. Et ça, c'est ce grand mystère de la religion de Jésus. Vous voyez, c'est que chacun de nous est appelé à avoir avec le Père les mêmes rapports que Jésus a avec mon Père, avec son Père. Tout de suite, directement. Pas croire que c'est par des intermédiaires qu'on va au Père. Non. Mais pour cela, il faut en même temps que le Saint-Esprit nous soit donné en personne. C'est pour ça que pendant toute cette semaine de l'unité, la grande prière, c'est vrai, c'est demander au Saint-Esprit, demander au Père, au Fils, qui nous donne le Saint-Esprit. Bon, parce que, surtout pour nous, adultes, nous pourrons devenir ces tout petits enfants qu'en étant des fils bien-aimés, comme le Père. Des fils et des filles bien-aimés, comme Jésus l'a été lui-même. Vous voyez, c'est par l'amour que nous retrouvons cette petitesse. Au fond, et pour cela, il faut que cette grâce sanctifiante qui nous a été donnée, au fond, elle soit pleinement actualisée, mais c'est l'Esprit Saint qui doit non seulement inspirer, mais qui doit nous porter, qui doit, au fond, se donner lui-même à nous. Vous voyez, c'est ça la grâce qu'il faut demander à Jésus de nous révéler à chacun de nous pendant cette semaine. Au fond, c'est la seule grâce, ça suffit. De découvrir que depuis Jésus est venu sur la terre, nous faire connaître le Dieu d'amour. Mais il est venu nous le faire connaître, pas d'une connaissance spéculative, c'est pas par des concepts qu'il nous l'a donné, c'est pas par notre raison que nous pouvons le découvrir, c'est pas même à travers des symboles, c'est pas en étant d'abord dans une famille, mais c'est immédiatement. Le mystère du corps mystique, l'Église comme corps mystique de Jésus. Et ce mystère, que la grâce que Jésus nous a méritée à la croix, nous a donné, c'est de pouvoir justement être dans ce rapport direct, immédiat, avec le Père. Et en même temps, avec le Saint-Esprit. Et au fond, le tout petit enfant, vous savez très bien, au fond, quand on lui parle, notre Père du ciel, il peut adhérer à cette parole, bon, que si à l'intérieur, au plus intime, ben, il y a l'Esprit Saint, bon, qui est en même temps celui qui découvre, qui est aspirateur de son cœur. Bien, Jésus lui dit, redevenez comme des petits enfants. Au fond, ça va être là la grande nouveauté que Jésus nous apporte. Pour ceux qui ont un petit peu suivi le cours de ce matin, la grande différence avec l'Ancien Testament, ce que l'Ancien Testament ne nous révèle pas, au fond, il nous fait découvrir qu'il y aura un sauveur qui viendra. C'est sauveur, c'est vrai, c'est Jésus ce sauveur. Mais comment est-ce qu'il nous sauve? Il nous sauve en nous donnant la possibilité, en nous faisant devenir, nous aussi, les fils bien-aimés de son Père. Bon, ça, c'est un mystère immense. Bon, et c'est-à-dire, donc, en nous faisant rentrer, vous voyez, dans ce mystère de la Sainte Trinité. Père, qu'il soit un, comme vous et moi, nous sommes un. Bon. Et la tentation de demander à Jésus, vous voyez donc, pendant cette semaine, qu'est-ce qu'il nous faut demander à Jésus? C'est de devenir encore plus petit. Bon, rappelons-nous la parole de notre Seigneur, « Père, je te rends grâce de ce que tu as révélé ces choses aux petits que tu as cachées aux sages et aux savants. » Il faut que nous dépassions l'attitude de sage et de savant que quelquefois nous pouvons encore avoir. Il faut que nous demandions très fort à notre Seigneur de nous faire comprendre que toutes nos activités d'esprit et que surtout toutes nos activités de raison, de volonté, c'est certes, elles existent tout ça, mais qu'elles soient de plus en plus enveloppées par notre cœur. Parce que c'est cette connaissance intime du cœur qui seule, c'est dans l'Esprit Saint seul, que nous pouvons découvrir le Père. Alors, donc, c'est là, je pense, si nous voulons prendre la semaine de l'unité au point de vue tout à fait intime, c'est de supplier Jésus, qui nous fasse connaître le Père et le Saint-Esprit. Donc, de plus en plus dans notre prière, très très simplement, d'aimer, nous adresser aux personnes divines immédiatement, au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Vous constaterez, je vous avoue que je constate tous les jours, vous voyez que dans les moments où la prière est difficile, dans les moments où nous avons plus de n'arrivons pas à nous recueillir. Quand tout simplement, j'aimerais invoquer le Père, en faisant en même temps que nous prononçons son nom du Père, ou chaque fois que nous disons le Notre Père, que nous pensons que réellement, nous pouvons avoir un contact direct avec le Père. Le Père, pour nous, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Pour nous, ce n'est pas le Créateur. C'est d'abord le Père qui engendre son Fils de toute éternité. Vous voyez, le Père le plus intime. Au fait, nous rappelons donc que c'est par cette voie d'intériorité, de petitesse. Enfin, c'est par là que Jésus vient dépasser l'Ancien Testament. Bon. Et alors que nous découvrions que pour nous, qui sommes des adultes, pour nous, il faut que demander ardemment au Père et au Fils qui nous donnent le Saint-Esprit. Au fond, qu'est-ce qu'il y a de tout nouveau dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus va nous faire connaître son Père comme le géniteur, comme Père qui engendre, et que peu à peu, il va nous faire découvrir que l'univers dans lequel nous sommes, au fond, c'est un univers qui est tout à la ressemblance du sein du Père. Donc, que c'est même d'un simple fait, notre respiration, simple fait, si nous vivons vraiment au nom de Jésus, sans cesse, eh bien, le Saint-Esprit peut nous faire découvrir Mais que dans n'importe, il y a toujours ces signes, simplement même de la respiration, qui peuvent tout de suite nous mettre en rapport direct avec le Père. Vous voyez que, au fond, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, au contraire, c'est ce qu'il y a de plus intime. Mais qu'il faut, nous faut alors cela rentrer dans ce qu'il y a de plus profond en nous. Au fond, découvrir de plus en plus, nous devenons de plus en plus transparents tout notre être. Vous voyez, pour que nous puissions découvrir que Dieu nous a fait pour que nous soyons un cœur, mais un seul cœur avec lui. Que nous ne pouvons avoir vraiment un cœur tel que Jésus le veut, c'est-à-dire non pas un cœur dur, non pas un cœur égoïste, non pas un cœur dominateur, que la purification de notre cœur ne peut venir que dans cette union intime avec le cœur de Jésus. Et alors que par là même, bien, le Père et l'Esprit Saint viennent tout proche de nous. Nous entrons. Nous devenons personnes par nos relations tout à fait intimes avec les personnes divines. Vous voyez, et alors, tout naturellement, la prière la plus intime, Père, qu'il soit un, comme vous, mon Père, nous sommes un, soit sanctifié dans la vérité. Mais quelle est cette vérité que Jésus nous a portée? Quelle est cette parole que Jésus nous a portée? Cette parole incarnée, lui-même, c'est pas une parole. Mais c'est cette parole de Dieu qui est dans le silence, cette parole qui est le Fils de Dieu, qui devient le Fils de l'homme. Il y a une unification, il y a une simplification que là notre Seigneur nous demande si fort. Dans ce sens-là même, nous comprendrons que si nous avons beaucoup besoin de Marie, et si dans cette semaine de l'unité, nous demandons très fort à Marie qu'elle se révèle un peu à nous, mais c'est pour ça que nous demandions au Saint-Esprit qui nous fasse connaître Marie, que nous demandions à Jésus qui nous fasse connaître Marie, c'est pour que nous comprenions que nous qui n'avons peut-être pas la force de supporter des épreuves trop rudes, nous qui avons peut-être peur un peu de la croix de Jésus, que quand nous voyons dans l'Évangile que Jésus l'a dit, au fond qu'il faudrait que pour que le Saint-Esprit puisse être donné à des pauvres pécheurs comme nous sommes, il faudra passer par la croix. Et que nous avons peur de cette croix, alors je pense que c'est très bon de nous rappeler les paroles que la Sainte Vierge, comme Rose Mystique, disait en Italie, une petite italienne, que si au début de la vie de l'Église, c'était la croix qui avait été comme le grand moyen pour faire entrer dans le mystère de la rédemption, bien, à notre époque, c'était surtout le cœur de Jésus et de Marie, qui certes n'enlève pas la croix, mais qui est au centre de la croix, qui est le cœur de la croix. Et alors qu'il nous poussera, en fait, quand ça ne supprimera pas la souffrance. Bien sûr, nous ne pouvons pas arriver à une intimité intime avec Jésus et Marie sans passer par la souffrance. Mais ça peut nous donner une intelligence que l'Esprit Saint peut nous donner. Et il faut toujours nous rappeler que où le mal abonde, la grâce surabonde. Et que nous sommes dans un monde maintenant où c'est vrai, les difficultés sont plus fortes que jamais. Le monde, vous voyez ce monde dont notre Seigneur dit, ils ne sont plus du monde. Ce monde que Jésus a quitté. Ce monde pour lequel il est venu, dont il vient nous libérer, dont il nous dit, vous ne pouvez pas être mes disciples si vous gardez cet esprit du monde. Ce monde, nous savons qu'il est plus développé que jamais. Et au fond, ceux qui sont peut-être, qui ont à travailler dans des bureaux, ceux qui sont continuellement à Paris, ça peut-être plus. Moi, je vous avoue que ici, on le saisit très très fort. quand on est en contact avec ceux qui souffrent, vous savez très bien que les moments les plus difficiles, c'est peut-être dans les moments où c'est le démon lui-même qui nous attaque. Au fond, c'est à ces moments-là qu'on a le plus besoin de l'aide de Dieu. Vous voyez, je crois que je l'ai déjà dit, quand j'étais en Pologne, ça m'a énormément frappé. Et encore aujourd'hui, je recevais une lettre de quelqu'un de Pologne qui avait fait la retraite. Eh bien, qu'est-ce que je découvrais? Ben oui, de l'extérieur, on croit qu'en Pologne, c'est les difficultés politiques, c'est les difficultés sociales qui jouent. Quand on connaît les Polonais, on voit, ben oui, au fond, il y a des difficultés personnelles en chacun d'eux. Au fond, notre personne, on la porte toujours. On a toujours énormément de difficultés à se détacher de son moi. On a énormément de difficultés de redevenir cette personne qui n'est conciée personne que dans sa relation directe avec les personnes divines. Et ça, cette difficulté, ben, parfois, quand on est en plein monde, bien souvent constaté en prédication, en plein monde, ben, le bon Dieu donne une grand secours, une grande aide. Bon, et puis quand on pense qu'on va avoir une journée un petit peu plus de recueillement, un peu plus, ben, au fond, ben, c'est là qu'il faut que, comme le Père Dehaut aime dire, c'est dans les carmels qu'on rencontre le démon, c'est là qu'il est surtout fourré. Ben, c'est dès qu'on tâche de se retirer un peu dans le désert, Jésus lui-même nous en donne l'exemple. Alors, il ne faut pas nous en étonner. Non. Mais il faut comprendre qu'à notre époque, nous avons des grâces toutes particulières. Non. C'est tout de suite de nous accrocher au cœur de Jésus et de Marie. Et alors, d'avoir la simplicité de ne pas nous regarder. Non. Au fond, de tout simplement demander à Jésus et à Marie qui nous gardent. Parce que, vous voyez, Jésus est venu nous faire connaître le Père et l'Esprit Saint. Si nous voyons comment il est venu nous faire connaître, qu'est-ce qui est la première qu'il a connue? C'est Marie. C'est le jour de l'Annonciation que ce mystère a été révélé. Et comment est-ce qu'il a été révélé à Marie, elle qui était l'Immaculée? C'est à elle qu'il a été révélé de la façon la plus incarnée. La plus simple, la plus humble, c'est quand, au fond, le Saint-Esprit est venu la couvrir de son ombre, que le Saint-Esprit l'a épousée pleinement, lui a donné Jésus. Et si notre Seigneur va rester pendant 30 ans dans sa vie cachée, c'est pour apprendre, en quelque sorte, à Marie, à devenir cette mère qu'elle va nous donner, qu'il va nous donner à la croix. Vous voyez, et au fond, quand nous disons, ça c'est très très important pour nous de retenir, vous voyez, quand nous parlons de l'Église, notre mère, la Sainte Église, comment est-ce que l'Église est vraiment mère? Comment est-ce que l'Église est vraiment épouse de Jésus? Vous voyez, les fonctions de mère, d'une mère qui donne la vie, la fonction de l'épouse, mais qui est pleinement épouse, ça ne peut être qu'une personne, pas dans une communauté. Une communauté ne peut pas être mère. Elle peut être fraternelle, mais elle ne peut pas jouer ce rôle de mère. Il faut que ce soit une personne. Mais ce serait bien les tout petits enfants, ils ont besoin de la personne même de leur maman. Il ne faut pas que la maman soit là simplement mère de famille. Non, ils ont besoin de l'intimité avec sa personne. Or, Jésus vient nous révéler. Vous voyez, que la grâce surnaturelle dépasse la nature dans le sens d'une intériorité plus grande, donc d'une petitesse plus grande. Qu'est-ce que Jésus est venu apprendre à Marie pendant sa grande neuvaine de l'Annonciation à Noël? Bon, il est venu apprendre à Marie qu'il fallait qu'elle devienne encore plus petite. Marie qui est immaculée n'avait pas toutes les complications que nous avions. Marie Immaculée, qui avait déjà tellement vécu dans cette docilité plénière, quand le mystère de la Sainte Trinité lui est révélé, comprend qu'elle n'a pas simplement à vivre, je dirais, dans le sein d'un Père créateur, d'être trouvé le moyen de créer un univers, je dirais, éthéré, qui est comme un sein qui porte ses enfants, et au fond, c'est comme la structure qui va lui permettre de parler directement à ses enfants, et pas simplement de lui parler par des paroles, mais de pouvoir lui parler surtout. Bon. Et alors, au fond, qu'est-ce que la Sainte Vierge, qu'est-ce que nous avons à lui demander, justement, c'est qu'elle nous apprenne, justement, vous voyez, que Jésus, Fils de l'homme, a voulu avoir un cœur humain, un véritable cœur humain, un cœur humain que nous ne pouvons pas comprendre sans Marie. Vous voyez, et qu'il a voulu que Marie soit sa mère, et qu'à la croix, elle soit en même temps sa compagne, son épouse. Vous voyez que Jésus, c'est Marie qui a rempli tout le rôle de la femme pour lui. Bien, il l'a vécu avec Marie, non pas pour en quelque sorte jalousement garder cela avec Marie, non pas pour que Marie le garde comme un trésor caché pour elle seule, bon, mais il l'a vécu pour nous le donner, bon, pour que Marie devienne mère de l'Église. Bon, et alors nous comprenons par là que si nous voulons vivre ce mystère de l'Église, mère et épouse, c'est dans cette unité intime, en laissant Marie revivre en nous, et nous-mêmes, en laissant le Saint-Esprit nous vivre la vie de Jésus. Vous voyez, c'est, et alors, le cœur de, comme dit Saint Jean eux, le cœur de Jésus et de Marie, il montre cette unité. Vous voyez, alors, pendant cette semaine de l'unité, vous voyez, non seulement nous avons demandé très très fort à notre Seigneur de nous faire comprendre comment le mystère de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, c'est ce mystère incomparable, vous voyez, de ces trois personnes qui s'enveloppent. Il n'y a pas d'extériorité entre les personnes divines, sont intérieures l'une de l'autre. Et le mystère immense, c'est qu'il nous a créé personne pour que nous ne soyons pas à l'extérieur, nous aussi. Au fond, et que si nos parents, notre maman nous a bien portés en un sens, mais qu'après, au fond, elle est à côté de nous. Bon. Jésus vient nous révéler que nous ne sommes pas à côté de notre Père. Bon. Nous sommes en lui. Bon. Vous voyez? Et donc, pendant la semaine de l'unité, c'est de demander d'abord cette prière intime avec les trois personnes divines. Et puis, que Marie nous montre, que le Saint-Esprit nous montre, que Jésus nous montre, ce rôle de Marie, qui ne vient pas être comme un intermédiaire, pas du tout, mais qui vient nous faire découvrir le cœur de Jésus, ce cœur blessé de Jésus, ce cœur qui a été blessé dès le premier instant qu'il est sorti du sein de la Sainte Vierge. Bon, dès qu'il a été en contact avec notre monde extérieur, mais qui a voulu, sur la croix, cette blessure soit manifestée, très forte, bon, pour que nous puissions, en quelque sorte, entrer dans ce cœur, bon, et pour que lui prenne tout l'aspect le plus douloureux, bon, et que, en meurant dans son cœur, ses souffrances puissent être adoucies pour nous. Il y a un mystère que on peut balbutier pour ça. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vous le révèle à l'intérieur. Il faut que ce soit Marie qui vous le fasse comprendre à l'intérieur. Vous voyez, on peut tellement adoucir les souffrances que le bon Dieu nous envoie, vous voyez, si on sait toujours tâcher de revenir au cœur de Jésus et de Marie. Moi, je vous avoue que je m'aperçois encore tous les jours. Vous voyez qu'on a des peurs, on a des angoisses, on a des inquiétudes, on a des moments où on se sent faible, où on ne se sent pas fort, et des moments où on sent que ça a un petit peu tendance à être un petit peu égoïste. Bon, eh bien, que si on s'est demeuré dans le cœur de Jésus, si à ces moments-là on demande plus fort, on n'a plus de patience, on n'a plus de docilité, puisque Jésus nous a dit « Apprenez de moi, je suis doux et humble », pour tâcher de demeurer dans ce cœur de Jésus et de Marie, on s'aperçoit que On peut tellement, voyez, notre pauvre imagination, voyez, notre mémoire, voyez, elle est terrible parce qu'elle orchestre toutes nos souffrances. Et par le fait même, elle leur donne une dimension, voyez, ce que les haut-parleurs réalisent. L'imagination et la mémoire réalisent. Au fond, c'est une toute... Alors que le cœur de Jésus et le cœur de Marie, au contraire, vous voyez, c'est ce qui adoucit, et qui empêche, au fond, que ces souffrances prennent une espèce de résonance, qui remettent en branle tout ce qu'il y a en nous. Alors, demandons pendant cette semaine de l'unité, si Dieu nous a fait la grâce d'être très délicat, d'être très faible, prenons-le comme une grâce du bon Dieu, non pas comme un malheur. Bien sûr, ça nous apprend de souffrir davantage, bien sûr, on aura à souffrir davantage. Bien sûr, il ne faut pas nous étonner, de temps en temps, on pourra découvrir des larmes à nos yeux. Ou ça dépend de chacun. Il y en a qui pleurent plus visiblement, il y en a qui pleurent moins visiblement, mais qui sentent des larmes constamment dans leur cœur. Mais considérons pas ça comme une... Considérons que c'est une béatitude. Mais si nous savons demeurer dans le cœur de Jésus et de Marie. Voyez, et là, prenons au sérieux l'enseignement. Quand la Sainte Vierge vient nous apprendre, voyez, qu'à notre époque, nous avons peut-être moins de résistance que les gens du Moyen-Âge. Nous avons des nerfs peut-être beaucoup plus fragiles. Mais en même temps, il y a une grâce immense. Et le cœur de Jésus et de Marie nous a été beaucoup plus révélé. Et si nous savons rester dans ce cœur de Jésus et de Marie, nos souffrances peuvent être tellement supplies. Mais ça demande, je dirais, un détachement très grand et en même temps un détachement très humble. Parce qu'il ne faut jamais que nous oublions, pendant la semaine de l'unité surtout, vous voyez, qu'il est plus difficile de se détacher de ses souffrances que de se détacher de ses joies. Vous voyez, au fond, nos joies, encore facilement dans l'action de grâce, nous en nous détachons. Mais quand Dieu nous fait connaître la souffrance, c'est l'énigme, je dirais, de notre être, c'est qu'au fond, nos souffrances, nous y sommes attachés. Et nous, souvent, on a beaucoup de difficultés à nous détacher de nos souffrances. Vous voyez, et surtout à notre époque où tout est fait pour développer en nous une certaine subjectivité. Vous voyez, donc, rendons grâce au bon Dieu s'il nous a rendus très sensibles. Voyez, au fond, Aristote, saint Thomas le reprend, disait que quand il parlait des chairs, au fond, que les gens les plus intelligents, c'était ceux qui avaient les chairs les plus délicates. Vous voyez, et donc, au fond, les plus vulnérables par le fait même. Bon, mais si Aristote le disait pour l'intelligence, Jésus vient nous le révéler, c'est que parce que c'est toujours en nous l'intelligence du cœur qui est la première. Bon, mais parce que c'est vrai, ça nous donne un cœur plus délicat. Mais c'est une béatitude si nous restons dans le cœur de Jésus et de Marie. Alors, efforçons-nous pendant toute cette semaine de revenir plus vite, immédiatement, au cœur de Jésus et de Marie. Et là, n'ayons pas peur d'une invocation au cœur de Jésus. C'est un fait que dans les moments où ça ne va pas, rien que d'invoquer le cœur de Jésus, d'invoquer le cœur de Jésus, le cœur de Marie, leur demander de demeurer dans leur cœur, comme ça peut nous aider. Bon. Troisième point, c'est donc Jésus est bienvenu nous révéler, et pendant cette semaine de l'unité, nous en prenons très fort conscience, le Père et l'Esprit Saint. Et il vient tout simplement nous rappeler qu'il nous demande avant tout de nous rappeler cette prédestination personnelle pour chacun de nous. Mais pour cela, de nous mettre tout de suite directement en rapport avec les personnes divines. Ce sont les personnes divines qui ont peut-être les plus présentes en nous. Vous voyez, c'est par l'intérieur qu'il faut commencer à être une personne. Il ne faut pas penser que c'est par les autres que nous allons rencontrer les personnes divines. C'est tout à fait de l'intérieur. Et puis les personnes divines elles-mêmes rappellent qu'il y a une personne qui ne fait pas nombre. Ça, c'est Marie. C'est un mystère. Au fond, mais nous avons besoin d'une maman. Et tous, différemment, mais ils ont tous besoin d'une maman. À tous les âges de la vie, nous avons besoin d'une maman. Et plus vous vieillirez, plus vous aurez besoin d'une maman. Et quand vous aurez perdu votre maman de la terre, et quand vous aurez perdu en quelque sorte toutes celles, au fond un petit peu, toutes les... Bon, eh bien vous avez encore plus besoin que jamais d'une maman. Ça, c'est notre cœur humain fait de telle manière. Bon, mais c'est Marie que Jésus nous a donné comme mère. Et la merveille, c'est que Jésus vient nous faire comprendre que le cœur de Jésus-Marie, ça ne fait qu'un. C'est-à-dire que Marie ne nous écartera jamais de la Sainte Trinité. Mais qu'on soit entré dans le cœur de la Sainte Trinité. Mais que Marie, ça nous empêchera, ça nous fera éviter d'aller à la Sainte Trinité par des concepts, en tâchant de concevoir qu'est-ce que c'est que le mystère de la Sainte Trinité. Donc d'atteindre la seconde personne, la Sainte Trinité, comme le Verbe, mais comme la pensée, au fond, comme la parole, ou bien en tâchant de concevoir un petit peu ce que c'est, peut-être par une théologie très subtile. Mais ça tient à l'intermédiaire. Bon, comme tous les symboles qu'on peut prendre, ça, ce sont des intermédiaires. Marie, ce n'est pas un intermédiaire. Ça, c'est un mystère. Il faut que le Saint-Esprit vous le révèle. Mais vous découvrirez que jamais Marie ne vous fera, elle ne fera que vous entriez plus profondément au cœur même. Et alors, elle découvrira en même temps, tout doucement, elle vous fera découvrir votre nature humaine, ce mystère de l'homme qui a été créé, homme et femme. Ce mystère de l'homme, au fond, homme et femme, et cependant qu'ils sont destinés à être qu'un cœur. Non, ils ont deux intelligences. Ils ont deux imaginations, ils ont deux esprits, mais ils sont destinés à être un seul cœur, et il ne peut y avoir un toucher. Leurs corps sont faits de telle manière qu'ils sont faits pour l'unité. Mais alors, le mystère, c'est ce qui s'est réalisé pour Jésus et Marie. Et alors, au fond, comme le mystère de l'Annonciation, au fond, quand nous reprenons tout le mystère de la vie de Jésus, extraordinaire de penser que Jésus va penser... 30 années restant avec Marie, en ayant la vie la plus humble, au fond, en quelque sorte, la plus cachée, comme Marie. Bon, vous voyez, Jésus n'a pas une grande famille, comme la famille d'Abraham. Vous voyez, au fond, Jésus a eu cette toute petite famille, avec Marie et Joseph comme protecteurs. Bon, la plus petite des familles. Bon, on vient de faire comprendre que c'est par cette intimité, au fond, qu'il faut aller au Père et à l'Esprit Saint. Et quand Marie, ça nous est donné. Puis la Sainte Vierge nous fait comprendre que, et c'est tellement important pendant la semaine de l'humanité, que Jésus, non seulement a voulu être notre sauveur à la croix, mais qu'il a voulu, en même temps, fonder une église qui continue, qui applique son œuvre. Et qui nous a fait cette immense grâce de naître après son incarnation. Et que la religion à laquelle nous appartenons, c'est cette religion qui vient de la croix de Jésus, mais cette religion qui est la religion de Jésus et de l'Esprit Saint. Et alors, tu nous fais entrer dans ce mystère du corps mystique. Mais que dans ce mystère du corps mystique, cette grâce sanctifiante qui demande que nous vivions sans cesse dans l'Esprit Saint, cette grâce sanctifiante qui nous fait comprendre que pour vivre continuellement dans l'Esprit Saint, il y a une créature, Marie, qui a eu la plénitude de la grâce et celle qui nous aide. Au fond, à entrer dans ce mystère de l'Église, vous voyez, en tant qu'elle est mère et qu'elle est épouse, par Marie, par une personne. Vous voyez, Au fond, comme saint Paul nous le dit souvent, vous voyez, tout le royaume est récapitulé en Jésus. Mais il est récapitulé en Jésus et en Marie. Vous voyez, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il y ait Abraham, il fallait qu'il y ait après toute la période des frères, il fallait qu'il y ait Joseph, il fallait qu'il y ait Moïse, il fallait qu'il y ait tous les prophètes. Vous voyez, et dans l'Ancien Testament, on ne peut pas dire qu'un seul prophète suffit. Non, ils sont tous nécessaires. Mais tout est récapitulé en Jésus. Avec Jésus, tout le royaume est donné. Mais Jésus nous fait découvrir tout de suite que Jésus, il n'a jamais été sur la terre sans Marie. Que Jésus, il est né dans le sein de Marie. Que Jésus, il a voulu toute sa vie que son cœur jamais ne sépare de Marie. Mais qu'à la croix, le premier don qu'il nous a fait, c'est Marie. Bon, et alors que dans cette église, c'est Marie qui va nous apprendre, vous voyez, tout ce que les sacrements nous donnent comme signe pour vivre cette vie d'unité avec lui. Vous voyez, au fond, pour vivre tout simplement notre baptême, pour vivre notre confirmation. Vous voyez, comment les sacrements vont nous aider comme des signes. À revivre l'intimité que Jésus et Marie ont vécu ensemble. Vous voyez, le corps mystique, c'est à la fois, au fond, cette vie de grâce, de la grâce sanctifiante, mais c'est en même temps cette grâce sanctifiante signifiée et donnée par les sacrements. Vous voyez, hier, pendant cette semaine de l'unité, vous voyez, nous avons demandé très fort aussi, vous voyez, de recourir à tout ce que nous donnent les sacrements. Par moments, c'est le sacrement de baptême là, qui est très fort. Si nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint, nous ne vivrons jamais trop notre baptême dans l'Esprit Saint. Au fond, plus nous avançons en âge, vous voyez, c'est dans notre dernier passage, au moment où le bon Dieu, c'est quand le bon Dieu nous prépare à nous appeler à lui. C'est quand il nous fait déjà un petit peu pressentir ce dernier passage. Bon, c'est à ce moment-là qu'il nous fait vivre le plus ce baptême. Parce que le baptême, c'est la mise au tombeau et c'est la résurrection. Le baptême, c'est bien les deux sacrements, les deux mystères de Jésus en même temps. Vous voyez, au fond, et si nous revivons notre baptême, vous voyez, nous revivons sous les deux aspects. Alors vous voyez comme de vivre son baptême, comme ça peut nous aider. Mais très fort aussi la confirmation. Bon, je crois que nous ne revivons pas assez la confirmation. Vous voyez ? Parce que notre confirmation, ça nous fait vivre en même temps que Dieu nous a laissés dans un monde de pécheurs, dans un monde où il y a la lutte. Vous voyez, nous avons confirmé notre petitesse. Il faut qu'en même temps, nous soyons des tout petits et des militants. Et en même temps que nous soyons des militants, en étant des militants, des apôtres. La première manière d'être un militant, au fond, d'être un apôtre, c'est en étant un militant. Et qu'est-ce que ça veut dire un militant ? Un militant, ça veut simplement dire demeurer, tenir, pas chercher le résultat, mais simplement chercher à tenir. Vous voyez ? Au fond, quand vous commencerez à vieillir, vous aurez beaucoup de difficultés à découvrir que la vieillesse, c'est le temps où le bon Dieu nous demande tout simplement de tenir. Vous voyez, d'avoir la patience, de ne jamais dire « Oh, c'est fini, je me laisse aller, pas du tout. » Et en même temps, jamais vous dire « Je vais réussir. » Parce que plus vous vieillirez, moins vous réussirez. Il faut bien que vous le compreniez. Au fond, plus on vieillit, moins on sent qu'on peut réaliser ce qu'on voudrait. Au fond, on est tout le temps dans... C'est très, très imparfait au point de vue des réalisations. Plus en plus imparfait, plus on avance. Vous voyez ? Bon, mais on découvre... heureusement, Jésus ne nous a pas demandé la réussite. Il nous demande tout simplement de tenir. Il nous demande simplement, au fond, de combattre. Et c'est ça que la confirmation nous fait comprendre. Allez, restez debout, tenez, tenez. Bon, vous avez, vous, l'impression d'être battu, vous avez l'impression d'avoir raté complètement, vous avez l'impression d'être emporté par le courant. Bon, retenez, voyez, j'aime toujours beaucoup prendre cette comparaison. Vous voyez, Jésus sauveteur, m'en a permis quand j'étais novicia saint. C'est lui qui, au lieu de nous dire que Jésus est un sauveur, il dit, mais peut-être ça vous fera mieux comprendre. Bon, quand vous voyez le sauveteur, vous voyez, il y a quelqu'un qui se noie, et puis quelqu'un qui jette à la mer pour le sauver, non, ou qui jette dans le fleuve pour le sauver. Non. Bon, bien, si quelqu'un s'y sauve terre, et si vous-même n'avez pas la force de monter dans la barque, bon, mais que sauve terre, il vous tient par la main. Bon. Tant que vous gardez sa main, vous ne piquerez pas au fond. Vous tiendrez, tant que vous aurez le courage de tenir sa main. Bon. Lui, le sauveteur, il se rapproche de plus en plus du port. Bon. Mais vous, peut-être que vous ne voyez pas. Hein. J'ai juste la force de dire, oh, comme c'est dur de tenir cette main. Oh, comme j'ai envie de la lâcher. Bon. Bon. Et puis il vous dit, non, tiens là. Bon. Il suffit que tu tiennes cette main. Ouais. Et puis vous êtes dans l'eau. Vous, au fond, vous êtes tiré de tous les côtés. Lui, il est dans la barque, il vous tient par la main, simplement. La barque approche. Bon. Et vous arrivez au port sans même vous en apercevoir. Mais ce qu'il a fallu simplement, c'est garder la main. Rester comme ça, attaché à cette main. Bon. Et bien, quand vous vieillirez, vous voyez, vous rencontrerez que vous n'aurez plus, c'est plus vous, comme notre Seigneur le disait à Saint-Pierre, bon, vous n'aurez plus la force de vous, au fond, de vous habiller, faire tout vous-même. Au fond, vous serez comme un pauvre. Bon, mais vous sentirez que la seule chose que Jésus vous demande, c'est de maintenir sa main, garder le contact avec Jésus. Bon, au fond, ne pas vous dire, oh, j'en ai assez. Bon, et vous serez tout le temps tenté. Vous voyez? Parce que c'est ça aussi une des tentations. Vous voyez, je vous dis, on est attaché à ses souffrances. Et on a toujours une tentation de fuite. Vous voyez? Saint Thomas, quand il parle de l'espérance, il dit le contraire de l'espérance, c'est la fuite. Vous voyez, on a toujours une espèce de tentation d'abandonner, de fuir, non, mais de se laisser aller. Non, et pendant, non, il faut tenir, il faut rester ferme là. Oui. Alors, ça c'est, quand nous revivons notre confirmation, ça nous y aide beaucoup. Vous voyez, c'est comme ça que la confirmation et le sacrement des malades, il y a beaucoup de liens entre les deux. Non. Et puis Jésus nous a donné ces deux sacrements. Les sacrements que nous avons, enfin, les plus habituels pour nous, c'est l'Eucharistie, bien sûr. Bon, près de l'Eucharistie, nous trouvons tout. Bon, nous avons la croix de Jésus. Bon, au fond, nous avons la consécration. Bon, bien sûr, Jésus vient nous appeler, nous faire comprendre qu'il vient tout changer en nous. Au fond, c'est notre substance même qui veut prendre. Bon, et puis, la communion, commençons déjà la vie du ciel. Bon, et si Jésus a voulu dans son Église, voyez, et que nous avons ici bon, la grâce, ah oui, de communier sous les deux espèces, bien sûr c'est la même chose, on a exactement la même substance, mais bon, nous qui avons besoin de signes, bon, ça nous fait du bien de communier au sang de Jésus aussi. Ça nous fait du bien de sentir que la communion, c'est pas simplement pour nous une nourriture qui nous soutient, mais un stimulant aussi. Vous saurez, vous savez bien, que les gens, au fond, peuvent être très tentés, des fois, au fond, dans la vieillesse, mais à tout moment, on a besoin de quelque chose pour vous exciter. Au fond, quand les gens boivent, c'est pour ça, c'est pour toujours un petit effort, une petite excitation. Et c'est ça, le vin qui supporte. Jésus connaît si bien notre nature humaine, il a voulu nous donner son sang sous le signe du vin, pour bien montrer que dans l'Eucharistie, nous n'avons pas simplement la nourriture substantielle qui nous permet, mais aussi la nourriture qui nous stimule, mais aussi la nourriture qui nous donne un bon petit coup de fouet, en quelque sorte. Vous voyez? Bon, mais c'est dans la foi qu'il faut le vivre. Vous voyez? Bon. Mais vous voyez, regardez, prenez, le mystère de la Sainte Trinité rapporte des personnes, notre personne avec les personnes divines. Le mystère du cœur de Marie et de Jésus. Mystère des sacrements. Pendant la semaine de l'unité, nous verrons comment tous ces aspects-là nous permettent d'unifier tellement notre vie et vivre alors plus profondément ce mystère du corps mystique. Et alors avec les sacrements, Ce qui est merveilleux, c'est que sans même que nous nous apercevions, en étant unis à Jésus, c'est Jésus lui-même qui nous fait entrer dans cette grande famille et dans ce peuple de Dieu en marche, qu'est l'Église de Jésus, cet autre aspect. Et puis en même temps, parce que au fond ces sacrements ce sont des signes et que nous allons recevoir avec une certaine obéissance à l'Église, au fond, c'est en même temps dans cette Église comme société spirituelle, comme société, tout cela qui nous est donné et qui va permettre d'unifier dans notre vie tout avec le point de vue de l'amour. Alors le dernier point, vous voyez, c'est grand signe d'unité, c'est de demander au bon Dieu pendant cette semaine faire profiter davantage, vous voyez, de la personne même du Saint-Père. Moi, je vous avoue que c'est un petit peu une confidence que je fais. Ça m'a beaucoup frappé en relisant les livres du dialogue du pape avec Fossard. Je découvre tous les jours que c'est une très grande grâce. Vous voyez, le pape actuel est une grâce pour nous. Et le pape actuel peut nous aider beaucoup, à la fois pour être ouvert à tout l'univers, et cependant, ne pas nous éparpiller. Parce que quand Jésus nous demande d'avoir cette unité, il faut que tout soit enveloppé dans le cœur. Mais si nous avons des talents, ici nous savons très bien que si vous avez une responsabilité à l'arche, vous ne pouvez pas vivre indépendamment du monde, des lois, enfin, tout l'ensemble. La présence, vous voyez, le pape comme personne, et notre pape actuel, voyez, avec ses déplacements, avec les paroles, voyez, au fond, la semaine dernière, j'ai essayé de vous résumer un petit peu tout ce qu'il disait sur l'année sainte. Vous voyez, bien, il nous aide tellement, de façon tellement simple, à ce que tout ce qui est du domaine de la raison, tout ce qui est du domaine de la culture, bien, tout ça soit unifié. Tout cela, loin de contribuer à éparpiller notre cœur, nous fasse comprendre comment tout le progrès, tout cet univers matériel, avec toutes les richesses qu'il contient, même son or, même son pétrole, même celles qui sont peut-être venues un petit peu du démon quelquefois, mais que l'amour de Dieu est plus fort, elles peuvent servir à ce que les apôtres de Jésus aillent porter la parole de Jésus. Bon, les avions, ça peut servir au fond, pour que, vous voyez comme il est beau de voir les pas des messagers de Dieu. Là, maintenant, quelquefois, ces messagers de Dieu, ils volent, tu vois, au fond, pour aller porter plus loin le message de Jésus. Au fond, Mère Teresa, elle vole de temps en temps pour voir que tout le monde puisse en profiter. Vous voyez, et alors nous avons besoin aussi de quelqu'un qui est comme une grâce pour que, dans le temps et dans l'espace, tout ça puisse être unifié. Alors les principes d'unité, vous voyez, qu'il y a pour nous, c'est d'abord avant tout le mystère de la Sainte Trinité, le Dieu d'amour. C'est Marie, l'Eucharistie, les sacrements. Mais à l'intérieur de ces sacrements, dans cette Église, il y a aussi le pape qui nous est donné comme principe d'unité. Voyez, et alors, ça nous amorce un tout petit peu le sujet que nous verrons la semaine prochaine, le second aspect de l'unité, vous voyez. C'est très frappant de voir que notre pape actuel, vous voyez, par rapport à l'unité, à l'écuménisme, a pris une position encore plus accentuée que celle de Paul VI. Vous voyez, plus hardie en quelque sorte. Vous voyez, au fond, que partout où il se trouve, il se considère un peu comme le protecteur de toutes les valeurs religieuses. Bon, il considère que c'est lui le seul, au fond, qui est reconnu comme un souverain. Mais je prends souverain, non pas dans le sens d'un roi, dans le décorum, pas, mais d'indépendance. Il a une autorité indépendante par rapport aux autres pays. Il peut parler librement, pas, au point qu'il n'est pas citoyen d'un pays. Que par le fait de sa papauté, bon, il est retiré en quelque sorte des pays. Bon, c'est la grâce particulière. Sa personne, bon, elle est comme extraterritoriale. Bon, l'église de Jésus, c'est une église qui au fond, qui se retrouve partout, bon, mais qui n'a pas de frontières. Bon, et la personne du pape veut être comme le signe de cette universalité de l'église. Vous voyez, bon, et alors, si nous prenons humblement, en disant, puisque Jésus, il a dit à Pierre, m'aimes-tu, et qu'il a montré que le pape, avant tout, sa première grâce était l'amour. Ben, si nous nous tâchons de l'aimer, ben, nous pourrons voir en lui aussi tout ce qui peut nous aider pour cette unité. Vous voyez ? Et alors, c'est là que ça nous aidera aussi à voir comment cette unité, ben, non pas seulement va prendre notre monde intérieur, mais elle va nous aider dans les choses extérieures à contribuer aussi à ce que ce soit la religion qui unifie tout dans l'ordre. Et comme le pape aime beaucoup le dire maintenant, n'est-ce pas, qui sauve l'homme. Parce que l'homme est en danger actuellement. Hein, et que l'homme, s'il quitte son Dieu, il n'a plus de salut. Et le pape, qui, participant à ce cœur de notre Seigneur, ne craint pas de rappeler aux hommes, de leur dire, mais il faut que vous restiez attachés à Jésus aussi, parce qu'autrement, vous allez vous-même vous perdre.